réplique Raconter la France avec Florence Aubenas et Philippe Lançon. En 2012, Nathalie Nougueyrède, directrice du journal Le Monde, propose une chronique à Florence Aubenas. Celle-ci, jugeant l'exercice trop théorique pour elle, choisit, avec l'accord de la direction, de faire à la place des reportages en France, partout ailleurs qu'à Paris, sur des sujets qu'on ne traite pas d'habitude. Ces reportages ont été regroupés dans un livre paru à l'automne 2014 et sobrement intitulé « En France ». L'ouvrage m'ayant intrigué et passionné, j'avais invité son auteur et celui qui en avait rendu compte avec beaucoup de délicatesse dans Libération, Philippe Lançon. Rendez-vous avait été fixé début 2015. Et puis, il y a eu l'attaque des frères Kouachi contre Charlie Hebdo. J'ai dû annuler la rencontre. Mais cette annulation n'était pas dans mon esprit un renoncement, c'était un ajournement. Et je suis d'autant plus heureux d'accueillir aujourd'hui Florence Aubenas et Philippe Lançon que la question qui me taraudait il y a 8 mois a pris plus d'acuité encore. Je la pose donc sans tarder. Comment va la France, Florence Aubenas ?
J'étais sûre que ça me tomberait dessus. C'est vrai, comme vous le disiez dans votre introduction, moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui théorise. Et c'est exactement pour ça que quand on m'avait proposé cette chronique, je n'ai pas voulu justement raconter, faire des analyses, faire ce genre de choses, parce que j'y suis extrêmement maladroite. Et je pense que l'exercice n'est vraiment pas pour moi. Donc dès que je pronostique quelque chose, ça ne se passe pas. Donc comme ça, vous êtes sûr.
Mais là, on n'est pas dans le pronostic, est plutôt dans le diagnostic.
Dans le diagnostic. Mais le diagnostic aussi, c'est... Moi, ce qui me plaît, c'est d'aller quelque part et d'amener les gens avec moi. Donc, c'est vraiment ça. Et assez souvent, on se rend compte que quand on voit une situation et qu'elle paraît désespérée, compliquée, etc., elle a toujours de différentes facettes. Et c'est vrai qu'en analyse, on n'en voit généralement qu'une, alors qu'en reportage, on les voit toutes. Et chaque fois, moi, je trouve que c'est exactement ça qui me semble... émouvant à chaque fois, c'est que les gens sont beaucoup plus inattendus que ce qu'on pense, beaucoup plus les choses sont nous échappent et heureusement, c'est le principe du réel.
Ah oui, mais là vous essayez de m'échapper aussi. Donc tout de même, j'ai lu votre livre. Évidemment, il ne s'agit pas d'en tirer des conclusions trop définitives. Il n'en reste pas moins que il peut donner matière à réflexion. Et même à inquiétude. Vous parlez, par exemple, dans un des chapitres de Gilbert Collard, se présentant aux élections législatives dans la deuxième circonscription du Gard, et vous dites que à Saint-Gilles, eh bien, il y avait comme une version locale de Don Camillo contre Pépone, qui prêterait à rire si elle ne serrait autant le cœur. Et elle serre le cœur parce que c'est justement pas tout à fait la même chose. Il y a un premier café dont les patrons ne cachent pas leur vote FN, et dans le café d'en face, il y a un imposant drapeau algérien qui est déployé par-dessus le comptoir. Vous parlez aussi des dealers dans les halls d'immeubles à 2 reprises, de la terreur qu'ils font régner dans les halls d'immeubles, et là on est dans le film d'Ipan, complètement, à 2 reprises quand même, dans 2 chapitres. Et puis, il y a aussi autre chose qui donne infiniment à réfléchir, c'est ce dépanneur de chaudière. Et d'ailleurs, la question que vous posez au début de ce chapitre, c'est est-ce que la France va exploser ? Et vous dites qu'il y a du travail, mais il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de candidat. Il y a 2 ans, il avait déjà ramé pour embaucher Jean-Étienne, bac pro énergétique. Le salaire avait étonné le lycéen. 1800 euros net sur 13 mois, c'est tout, il avait lâché. Au lycée, les professeurs leur répétaient, vous faites un métier porteur, vous n'aurez qu'à claquer des doigts. Au lycée professionnel, j'imagine. Tous se voyaient un peu comme des footballeurs, des acteurs, voire des journalistes. Bref, un truc tranquille qui paie bien. Tout ça donne quand même, c'est les éléments d'impulse, ça donne quand même l'image d'une France en crise, non ?
Ça, l'image d'une France en crise, ça, c'est difficile de ne pas la voir. Mais je vais vous donner un exemple justement de ces deux éclairages possibles d'une situation. Il y a un endroit qui m'avait passionné, qui sont les usines Peugeot à Montbéliard. Alors, c'est passionnant parce que Montbéliard vit, dort, part en vacances Peugeot, mange Peugeot, c'est la ville Peugeot. Et évidemment, les gens qui travaillent dans ces usines, sont des gens qui ont été embauchés il y a déjà un certain nombre d'années, qui ont tous maintenant des enfants, qui travaillent là. Et la vie de cette usine était, on y est embauché de père en fils, mais simplement, il n'y a plus d'embauche. Et donc, les enfants sont avec un statut de précaire. Donc, ils sont embauchés pour des durées à déterminer. Donc, ils sont là pour un contrat de 6 mois, 1 an. Et c'est plus ce grand CDI en dur dans lequel on rentre à 20 ans et ressort à 65 avec un pavillon. Et voilà, le travail à l'ancienne, j'allais dire. Et donc, on voit les pères arriver au travail le matin avec leur CDI et les enfants qui attendent sur le parking du McDonald's, pour ne pas le nommer, en disant, voilà, j'en ai pour quelques mois seulement. Et évidemment, quand on demande au père, mais qu'est-ce que ça vous fait de voir votre enfant qui est là, qui attend sur le parking et qui n'a plus ce travail comme vous l'avez eu? Et le père répond, et c'était assez émouvant qu'il est là avec sa gamelle, etc. Il dit, oui, écoutez, moi, c'est vrai que nous, dans les années 70, quand j'étais embauché, les gens me disaient, ben voilà, ça va arrêter, les usines vont être supprimées, bientôt vous allez voir, vous ne serez plus des machines à visser des boulons dans une usine. Et il dit, ce qui était notre cauchemar est devenu le rêve de nos enfants. Voilà. Et quand on demande aux enfants sur le parking, alors vos pères ont eu ça, c'est le symbole d'un temps révolu. Et vous attendez sur ce parking, et je me suis dit, c'est même un peu cruel de demander ça comme ça, c'est un peu dur, donc je les laisse parler. Et alors il disait, ah ben nous, oui, c'est vrai, on alterne du chômage, on est en précaire. Et je pense qu'il faut affronter une situation, il faut l'apprendre avec un certain courage, et c'est ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'a beaucoup surpris, c'est-à-dire qu'ils regardent leur père et disent, bon, nous on est au chômage, lui il supporterait pas. Heureusement que c'est sur nous que ça tombe, t'imagines? Alors ils étaient là, t'imagines ton vieux au chômage? Oh non, lui il y arriverait pas. Nous on y arrive. Et ils le prenaient comme le défi de leur génération. C'est à la fois terrible, évidemment, et à la fois, je pense que ce n'est pas optionnel de dire, est-ce que je vis là, est-ce que je vis pas là, est-ce que c'est la crise, pas la crise. Que les gens, et c'est ça qui me sidère quand on voyage comme ça dans le pays, comment les gens prennent ces situations-là à bras le corps. Et ça, c'est pour ça que je vous dis que tout a quand même ça, c'est des lumières contrastées.
Des lumières contrastées, ouais. Oui. Alors c'est vrai, j'ai lu ce chapitre avec d'autant plus d'intérêt que dans les années 70, on militait contre le travail à la chaîne, etc. Ça nous rappelle forcément quelque chose. Et en effet, le père, quand il a été recruté, il dit le terme ouvrier à la chaîne était synonyme d'esclave moderne. Ouais. Aujourd'hui, on nous appelle privilégiés. Ce qui était une fatalité, vous l'avez dit, pour nous, est devenu le rêve de nos enfants. Ouais. Et d'ailleurs, ces enfants, ils ne vont pas à Pôle emploi pour demander un métier, mais un CDI.
Exactement. C'est-à-dire que la forme de travail
n'est plus du tout
a complètement muté.
Philippe Lanson.
Comme Florent, je dirais, je ne suis pas françologue. D'ailleurs, c'est une spécialité qui, heureusement, n'existe pas. Ça serait une sorte de médecin généraliste d'un pays malade. Ce qui me frappe par rapport à ce que dit Florence quand je lis son livre, on lit ce qu'elle dit en particulier dans les paroles des gens. Parce que Florence, avec qui j'ai travaillé longtemps à Libération, a une très bonne oreille. C'est même une de ses caractéristiques. Et on entend circuler la parole de manière, j'allais dire, pas indifférenciée, parce qu'elle est très symptomatique des gens qui parlent. On va dire que c'est les gens du peuple, hein, en général, de toutes sortes de peuples. Mais elle fait voir cette confrontation à la réalité et l'extraordinaire vitalité des gens par rapport aux situations dans lesquelles ils sont ou pour lesquelles ils combattent. Je vais citer un exemple. À un moment donné, je ne dis pas qui c'est qui parle. Quelqu'un dit, mais quoi qu'il arrive, on n'est plus les mêmes aujourd'hui. Ça continuera à travailler secrètement dans le cœur du peuple pour ressortir un jour sous une forme que personne ne peut imaginer, même pas nous. Là, il se trouve que c'est quelqu'un qui, une bouchère, qui manifeste dans la manif pour tous, ce qu'on appelle la manif pour tous. Mais ce qu'on sent bien quand on lit ça, c'est que plein d'autres gens dans ce livre et dans la société française pourraient le dire. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'alerte, un vieux mot que je lis beaucoup dans les livres du 19e siècle, de fermentation. Voilà, ils sont dans un état de fermentation. Et l'un des mérites du livre de Florence, c'est effectivement de faire entendre ça, mais de manière extrêmement énergique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complainte. On n'est pas dans la complainte, on est dans la, soit dans la survie, mais c'est un mot un peu exagéré, soit dans, comment dire ça, simplement dans l'activité pour s'en sortir et pour faire valoir un certain nombre de choses. Et comment va la France pour finir? Moi, ce qui me semble, quand je lis ça, mais plein d'autres choses aussi, et par rapport à ma propre expérience, j'ai le sentiment qu'elle se réveille d'un grand sommeil politique dans lequel était représentée une sorte de classe moyenne blanche idéale, pour qui tout n'allait pas bien. Mais disons, comme disait par rapport à ce que disait Florence, ça irait mieux le lendemain et pour les générations suivantes que la veille, et pour les générations précédentes. Et là, ce qu'on sent, c'est la sortie de cette espèce de sommeil. Je dis sommeil, puisque somme toute, ça faisait probablement quelques décennies qu'on aurait dû se réveiller. Alors, d'où l'attaque très probable, et je pense qu'on va en parler, très violente qu'on sent aussi dans ce livre, contre les institutions, les journalistes, les hommes politiques, tout ce qui était censé représenter un peuple qui était en train d'évoluer et qu'on ne voyait pas, qui n'était pas visible, qui n'était pas audible, ou très peu finalement, dans la représentation nationale qu'on se faisait de ce qu'était la France.
Alors évidemment tout ça suscite en moi perplexité et questions, mais vous avez fait allusion à votre situation personnelle, Philippe Lançon, et je pense en plus que ça a à voir avec la question initiale que je posais. Et donc, je vous demande tout simplement, comment allez-vous?
Comme la France, je suis en état de lutte avec la situation dans laquelle je suis. Et j'essaie de le faire, comme les personnages de Florence, j'espère, avec autant d'énergie et de distanciation que possible. Ce qui est intéressant par rapport à ce dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il se trouve que ma situation, par l'hôpital et par la police, puisque j'ai été et je suis encore à l'hôpital donc depuis 8 mois, et dans des hôpitaux différents, et puis la police parce que j'ai été protégé jusque très récemment, j'ai pu apprécier la colère, la mauvaise humeur de la plupart des infirmières, des aides-soignantes, des policiers que je croisais. Et je les croisais quand même beaucoup, hein, puisque ma vie dépendait en partie d'eux, j'étais beaucoup avec eux. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'était une certaine exaspération, cette mauvaise humeur, contre leur hiérarchie. Ils ont de plus en plus, et dans tous les domaines que j'ai pu voir, un sentiment qu'un contrat social n'est plus respecté. J'emploie un grand mot volontairement. C'est-à-dire que ces gens sont en général des gens qui veulent faire bien leur travail, qui c'est des travaux très particuliers qui leur tiennent à cœur. Et ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus le faire dans les conditions qu'ils avaient choisies pour le faire. Parce qu'ils font pas ça en général pour l'argent, ou pas vraiment pour l'argent. Et ils ont l'impression d'être de plus en plus soumis à des ordres comptables et hiérarchiques qui ne prennent pas en compte la nature et la spécificité du travail qu'ils font. Alors c'est un éclairage très modeste que je donne, mais qui me semble recouper des choses que j'ai lues dans le livre de Florence.
Ça, ça recoupe ce que vous avez lu dans le livre de Florence Sopna. Mais moi, j'ai envie de poser une question très générale à Florence Sopna, qui ne va pas aimer ça. J'ai de toute façon sous les yeux une citation de Nicolas Gomez d'Avila, un merveilleux penseur colombien, qui va un peu dans le sens de ce que vous essayez de faire, puisqu'il dit « Être intelligent en se passant de concepts, c'est le privilège de l'artiste ». Donc vous êtes une journaliste et au fond, vous êtes aussi une artiste. Vous allez plutôt chercher les situations particulières. Vous êtes réfractaire aux grandes idées générales. Et là, vous retrouvez aussi Philippe Roth. Quand on généralise la souffrance, on a le communisme. On pourrait dire on a l'idéologie. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature et peut-être aussi le journalisme tel que vous le pratiquez. Il n'empêche... Et là, je vous demande pour vous, en tant que citoyenne, en tant que journaliste, ces attentats et cette grande manifestation du 11 janvier, que nous disent-ils de la France? De cette France sur laquelle vous avez enquêté, et alors, vous n'êtes pas francologue, mais voilà. Est-ce qu'ils vous ont appris quelque chose, ou est-ce qu'ils vous ont confirmé quelque chose?
Non, je suis pas persuadée que c'est une situation qui est quand même très très générale dans les pays occidentaux, c'est cette vague d'attentats qui a eu lieu sous des formes très différentes à des endroits particuliers. Je ne suis pas persuadée que ce soit une situation française, j'allais dire. Après, la réaction, en revanche, ces immenses manifestations, etc., était elle assez française, j'ai trouvé. Était elle une manière de faire, je pense que c'était un pays qui pour des tas de raisons, avait envie de se retrouver. Et je crois que dans cet élan où les gens se sont retrouvés sur des places, quand les manifestations ont eu lieu à Paris, j'étais à Villeneuve-sur-Lot, vous voyez. C'était pas du tout un endroit où... Et là, où il n'y a pas eu cet affichage des grands partis, des chacun se battant pour être au premier rang, ou ce genre de choses, où les gens sont réellement sortis dehors, et des gens qui n'avaient, je pense pour la plupart, jamais ouvert Charlie Hebdo. Donc c'était quelque chose qui dépassait tout à fait ce cas spécifique. Tout le monde s'y est reconnu, voilà. Et dans ce « Je suis Charlie » que moi je répète avec grand plaisir, hein, moi je le suis de façon inconditionnelle, sans même me poser de questions, j'allais dire, sans même y réfléchir. S'il faut dire « Je suis Charlie », je le dis comme ça, et vraiment sans aucun recul. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la réaction qu'il y a eu, le fait de dire « les institutions doivent s'en occuper, ce sont aux écoles de faire une minute de silence », ce que je trouvais complètement absurde. Hein, c'est pas une école d'aller dire à tous les élèves « maintenant mettez-vous au garde à vous » et tout le monde pleure en même temps. Enfin, et je pense que c'est la gestion de ce « Je suis Charlie » qui était très bien compris du pays entier, là, pour le coup. Hein. Les gens étaient... tout le monde était vraiment... Je n'ai pas vu une personne qui n'était pas émue. Et je pense que c'est cette gestion très française qui a un peu faussé les choses. Et le fait de dire qu'un gamin qui disait « Ah ben moi, je suis pas Charlie », de l'envoyer au commissariat, comme ça a été le cas pour des gamins de 8 ans, ça n'était pas adapté. Le fait que les institutions s'en emparent, ce n'était pas adapté. C'était quelque chose... Non, mais c'était un élan spontané. Et je pense qu'il aurait dû être respecté comme tel. Et c'est comme ça qu'il était beau... Et de tout le monde, vraiment.
Philippe Lançon, qu'est-ce que...
Oh, je suis assez d'accord avec Florence. Je pense que j'en reviens à mon petit dada sur le contrat social. Je pense que le 11 janvier, je parle avec beaucoup de réserve, car moi, j'étais dans ma chambre d'hôpital. Mais il me semble, pour ce que j'en ai compris, que les gens étaient évidemment, ceux qui ont manifesté, horrifiés, prenaient conscience tout à coup que la liberté d'expression pouvait être sanctionnée par la mort. Une chose qui quand même était quand même nouvelle hein, dans ce pays, enfin nouvelle, en tout cas qui était nouvelle pour des générations et des générations. Donc quelque chose qui était quand même très saisissant. Et par ailleurs, à mon avis, hein, quelque chose qui était de l'ordre de qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce contrat social, qui était celui très spécifique à la France aussi, pour que des enfants français, puisqu'ils étaient français, en viennent à entrer dans un tel délire et à commettre de tels attentats. Donc ça, c'était, je pense qu'il y avait tout ce mélange de choses qui était là. Par ailleurs, pour le reste, pour ajouter à ce que disait Florence, c'était quand même à la fois très clair et très vague, ça. La question était comme toujours celle de la traduction politique du mouvement. Elle n'a pas été faite. Je ne sais pas si elle était faisable. Et comme elle n'était pas faite, il s'est passé ce qui se passe souvent, eh bien, il y a eu une traduction morale, et même moralisante, qui est la version faible d'une traduction politique qui obligerait à une pensée précise et non complaisante du mouvement, qui n'a pas été menée, à l'évidence. Et donc, il y a eu les phénomènes moralisants dont parle Florence, et dont je pense comme elle qu'ils étaient tout à fait contre-productifs.
Alors là, je m'inscris... En faux contre
les
deux.
Enfin, je me disais, je vous voyais bouillir, je me disais, mais quand est-ce qu'il va éclater ?
Les deux journalistes êtes. Deux contre un, oui. Et j'accepte cette position de relative faiblesse, parce que je pense qu'il y a un divorce grandissant, en effet, et qui concerne les sciences sociales, mais peut-être aussi le journalisme, entre les discours des experts et l'expérience des gens. C'est-à-dire, nous sommes invités à ne pas en croire nos yeux. Oui, il y a eu une immense manifestation de solidarité dans toute la France, mais ce n'était pas tout le monde. Bien sûr que ce n'était pas tout le monde. Et ce qui a été révélé par cette histoire de minutes de silence, c'est précisément la force d'une certaine hostilité au slogan « Je suis Charlie » dans une partie importante de la population. Il faut quand même rappeler qu'il y avait moins de manifestants à Marseille la deuxième ville de France, qu'à Clermont-Ferrand. Et il n'y a pas à s'interroger pourquoi. On le sait très bien, même si on n'ose pas.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Même si on n'ose
pas
le dire.
Alors
attendez.
Pas du tout d'accord.
Alors, donc, il y a ce pays, et c'est ça qui le travaille, c'est ça qui fait peur. Ce pays est divisé, de plus en plus divisé. On assiste à des phénomènes de sécession culturelle et territoriale. Quand on parle de quartier populaire, c'est un nom de code. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Ce sont des quartiers désertés par ce qu'on appelait autrefois, au temps du contrat social, Philippe Sanson, dont vous parlez, le peuple français, qui n'y est plus. Il y a de plus en plus de Français qui disent, pour désigner les autres Français, les Français. Tout cela, n'importe quel voyage en France, vous l'apprend. Et je crois que il est important que les journalistes, justement, prennent acte de ce phénomène. Or, ils ont peur de faire le jeu de... toujours comme on avait peur de faire le jeu des États-Unis au moment où il s'agissait de dénoncer le communisme. Là, ça recommence. Pour ne pas faire le jeu de « suivez mon regard », il y a des choses qui ne sont pas dites et on préfère s'en prendre aux institutions plutôt que de regarder une réalité douloureuse, délicate, en face. Et là, voilà, les deux vont repartir et le 1 va se taire.
Une réponse possible d'un des numéros 2 à ce que vous venez de dire, c'est un des articles de Florence qui est très émouvant et très drôle, où elle raconte ces jeunes filles qui viennent des ZEP et qui rentrent à ce que les parents de l'une d'elles appellent France Po, et pour Sciences Po. Et on voit très très bien, enfin moi en tout cas, il me semble quand je lis ça, on les voit arriver à Sciences Po avec leurs désirs, leurs ambitions, leurs complexes, leur humour aussi, et le regard tout à fait précis et remarquable qu'elles ont sur le nouveau monde qu'elles vont devoir affronter. Et elles finissent d'ailleurs par avoir des 17, en l'occurrence. Mais que ça finisse bien ou mal, parce qu'on aimerait avoir la suite de cette histoire, et c'est les vertus d'une bonne histoire, que quand elle est finie, on a envie qu'elle continue. En fait, on voit très bien que c'est une affaire de classe sociale. Et donc, par rapport à ce que vous dites, on n'est plus dans les classes sociales du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Mais on y est quand même encore beaucoup. Simplement, c'est ajouté à ça autre chose, qui est une immigration émanant des enfants d'immigrés français venus du Maghreb essentiellement, mais également d'Afrique. Et c'est constituer une classe, parce que moi, je vois ça comme une classe. C'est-à-dire, quand je lis des choses, quand je rencontre les gens, on voit que c'est une classe. Ils ont un langage, des références. Et comme toutes les classes sociales qu'on appelait jadis les classes dangereuses dans les milieux bourgeois, beaucoup, en particulier des jeunes de ces classes, s'identifient contre ce qui leur semble être imposé de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Florence. Il ne faut pas trop exagérer le symptôme. C'est-à-dire, il y a un symptôme. Effectivement, moi aussi, je sais, j'en ai parlé avec des gens qui vivent en banlieue, qui étaient beaucoup à l'hôpital, ou les policiers à propos des prisons. Je sais que les frères Kouachi sont, entre guillemets, « fameux » dans un certain nombre de milieux et d'endroits. La prison, c'est quelque chose de très à part. Mais pour ce qui concerne les cités, même moi, qui évidemment, cette chose choque terriblement, je ne veux pas en faire une sorte de symptôme universel qui montrerait qu'on ait affaire à des criminels en puissance ou à des gens qui flattent les criminels. C'est pas ça qui flatte, en fait, à mon avis. J'aimerais que Florence m'en parle. Je pense qu'ils s'inscrivent contre une société qui leur impose des choix dont ils ne veulent pas à un moment donné. Et évidemment, une fois sur deux, ils prennent le mauvais objet pour se célébrer. Ça me rappelle d'une autre façon, plus généralement politique, en 90-91, lors de la première guerre du Golfe, la manière dont, dans un certain nombre de cités où j'allais à l'époque, on soutenait Saddam Hussein, qui était un foutu dictateur. Donc, vous voyez, c'était le mauvais objet. Mais il ne fallait pas confondre ça avec les raisons de ce qui manifestait cette colère.
Je brûle de vous répondre, mais ouais. Je laisse la parole à Florence Aubenas. Et je me l'accorderai peut-être tout à l'heure. Florence Aubenas.
Non, c'est vrai que je pense que c'est notre travail à tous qui habitons ce pays et qui est un pays qu'on aime tous, chacun à notre façon, d'essayer de faire que les choses se passent bien. Et je pense que C'est vrai qu'il y a depuis longtemps des barrières culturelles entre les gens. Je pense que je vais parler d'un secteur que je connais bien, qui est celui de la presse, qui est-ce qu'on recrute pour être aujourd'hui les jeunes les journalistes de demain. Ce ne sont pas très rarement des fils d'agriculteurs, ce sont très rarement des gens qui n'habitent pas une grande ville, ce sont très rarement des enfants issus de l'immigration. Voilà, c'est que la France a une manière de mettre en avant, en tout cas de mettre à des places, à certaines places qui sont des places politiques, des places institutionnelles, une reproduction des élites. J'invente rien, là, ce que je dis est d'une triste banalité, mais je pense que c'est cette banalité qu'il faut regarder. Il ne faut pas y chercher un prétexte autre, un prétexte religieux, un prétexte... Je vous vois venir. Ah, il lève la main, il meurt d'envie, là, il n'en peut plus. Je vais continuer rien que pour l'embêter.
Je suis dans mon émission. Je lève la main.
Oui, c'est vrai, ça donne envie de continuer. Bon, allez,
allez-y.
Non, mais c'est bon.
Je crois que, quand bien même on voudrait être le plus près de l'événement, le plus pragmatique qui soit, on est toujours habité par une certaine philosophie, voire une certaine métaphysique ou une vision du monde. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous tributaires des sciences sociales, sauf mais pas forcément des mêmes. Pour le dire autrement, il y a une guerre intestine dans les sciences sociales entre l'anthropologie et la sociologie. Je dirais les choses entre Lévi-Strauss et Bourdieu. Et il me semble que la plupart des journalistes se raccrochent à Bourdieu. C'est-à-dire que s'il y a des luttes, des conflits, des divisions, elles ont forcément un caractère économique et social en dernière instance. C'est le plafond de verre, ce sont les inégalités, etc. Or, Lévi-Strauss ne dit pas cela. Il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre du choc culturel. Quand Hugues Lagrange, sociologue, a voulu lui-même se réclamer partiellement de l'anthropologie, alors même d'ailleurs qu'il préconise par ailleurs, comme tout le monde aujourd'hui, le multiculturalisme, il a reçu une volée de bois vert.
Il peut y avoir les deux.
Oui,
et c'est ce que j'essayais de dire. Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est pas fromage ou dessert. Il y a les deux. C'est-à-dire, il y a effectivement un choc culturel bien compréhensible et que on peut, dont on peut parler très calmement, qui est clair, on comprend les raisons de ce choc. Et il peut y avoir un vrai phénomène, qu'en tout cas, moi, je lis dans le livre de Florence, qui est d'ailleurs, à mon avis, construit aussi pour qu'on le sente comme ça. C'est-à-dire, on voit, en allant d'ailleurs vers l'optimisme, vers la jeunesse à la fin, où ces jeunes, à la fin, sont très, très énergiques, quand même, dans ce qu'ils font. Mais on sent très bien un langage et une conscience, que je dirais, j'ai employé des vieux mots, donc des gros mots. Il y a quand même une sorte de conscience de classe dans la plupart des gens qui s'expriment dans les reportages de Florence.
Alors, en même temps, il y a un reportage sur lequel nous nous attarderons, Florence Aubenas, parce qu'il est passionnant et en même temps, il m'a un peu fait bondir. Mais il est merveilleusement écrit en plus, « La maman parfaite, mais surbouquée ».
Le mot sur lequel, si vous voulez, chaque fois, ça me fait rire, parce qu'un reportage, je vous le dis, je romps un peu le teasing, c'est qu'il parle du voile en France. Et c'est vrai que c'est un des mots, il y a quelques mots comme ça en France. On appuie dessus.
Peut-être pour de bonnes raisons, mais si mes raisons sont mauvaises, vous me le direz. Avant de parler justement de cette mère qui veut avoir une jeune fille pour s'occuper de ses enfants et arrive trois filles non seulement voilées mais vêtues du djilab, robe noire, tout en drapé tombant jusqu'au sol, et voile qui ne laisse voir que l'ovale du visage. La mère, dans un premier temps, refuse. Et puis, comme après, elle n'a que des candidates présentant la même apparence, et bien finalement, elle rappelle cette jeune fille en lui disant qu'elle la prend. Mais avant de parler plus précisément de ce reportage et de votre façon de le décrire et de le voir, je voudrais vous soumettre les réflexions d'un autre voyageur, si ça ne vous dérange pas. Pas plus françologue que nous trois, mais passionné par la France et qui s'interroge, et journaliste. Et il a été journaliste à Libération, donc voilà, c'est pas trop exotique. C'est Éric Dupin. Qui a publié Voyage en France.
Un bouquin formidable, d'ailleurs.
Aux éditions du Seuil. Et donc, c'est un chapitre sur l'île Roubaix-Tourcoing. Et donc, il rencontre Claude Levasseur, retraité actif, qui s'occupe d'Emmaüs et donne un petit coup de main à un ami qui tient le magasin d'équipement de sécurité où Éric Dupin le rencontre. Il est lui aussi préoccupé par l'état des relations interethniques, difficile de le suspecter de racisme, sa belle-fille est d'origine marocaine, ce qui ne lui a jamais posé le moindre problème. Claude déplore la haine raciste de certains membres de sa propre famille, qui ne vivent pourtant pas dans les quartiers difficiles. Il reconnaît toutefois souffrir de voir certains quartiers de Tourcoing ressembler à la Casbah. Ça ne dérange pas tant qu'on n'y vit pas. Je vais souvent au Maroc et j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes. Là-bas, on ressent une chaleur à votre contact. On est chez eux. Ici, dans un quartier d'origine musulmane, on n'est plus chez soi. Une espèce de méfiance s'est créée. Il y a simplement les regards quand vous passez. Et Éric Dupin, à la fin de son périple, va dans le quartier nord de la Bourgogne à Tourcoing. Voici ce qu'il dit. Il n'a pas, lui, ressenti de regard hostile. Simplement l'impression un peu pesante de parcourir un territoire presque exclusivement arabe. Les petits immeubles de 4 étages sont loin d'être laids, mais les commerces sont tous spécialisés. La boulangerie s'appelle Pain de Farah, la boutique d'internet et de jeux bled.com, la boucherie est bien évidemment halal. Deux cafés sans aucune enseigne ni devanture, de simples salles de rez-de-chaussée d'immeubles où une clientèle exclusivement masculine et souvent âgée tape le carton en buvant du thé. Tout le monde y parle arabe. Et il dit son malaise. Alors, est-ce que vous pensez que cette visite est significative? Et si oui, de quoi?
C'est une visite réelle. C'est évident qu'en France, enfin, ou alors les gens ne sortent pas de chez eux, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de quartiers, exactement comme le décrit Eric, mais vraiment pareil, où les commerces sont destinés exclusivement à une clientèle généralement musulmane, effectivement halal, donc tous les termes clignotent là. Mais je vais vous dire, je fais beaucoup de reportages dans des endroits très divers. Si vous traversez un village du Beaujolais à 11h30 du matin, donc on est bien chez soi, hein, on est bien en France, hein, si pour utiliser les mêmes termes que moi je n'utiliserai pas, mais qui sont ceux d'Éric. Vous êtes suivi, escorté dans la rue par les aboiements de tous les chiens. Et est-ce que voilà, c'est, il y a pas de regard hostile, mais vous n'êtes pas non plus
forcément bien vu.
Ah, je veux dire, c'est tout ça, c'est le sentiment d'être là, d'être bien reçu, d'être voilà. On n'est pas à Saint-Tropez à la pleine saison, si tant est qu'on doit y être bien reçu aussi. Donc je pense que c'est des sentiments qui sont ceux qui vous entourent et ceux qui sont les siens aussi. C'est-à-dire c'est la façon dont on voit les choses. Et on n'aurait pas l'idée de malaise en traversant ce village du Beaujolais. Alors que c'est pareil. C'est si vous sonnez à la porte en disant bonjour, je cherche mon chemin. Bah, c'est pas, on va pas vous dire, bah, restez donc là, boire un café pendant que je regarde sur la carte. Donc voilà, c'est le fait d'être, de ne pas faire partie d'une communauté à un endroit donné.
Ah oui, d'accord.
Trois choses.
Philippe Lançon.
La première, c'est que, pour relativiser un peu, le constat, effectivement, on l'a tous fait. Moi, j'ai besoin de faire 200 mètres au-delà de chez moi pour rencontrer ce que dit Eric. Comme j'y vis, ça me choque pas. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il était un journaliste américain ou anglais, il ne serait pas choqué par ce même constat. Parce qu'il serait dans une société où ça apparaîtrait comme beaucoup plus, en tout cas dans des villes comme New York ou Los Angeles ou autre, ça lui apparaîtrait absolument naturel. Je ne dis pas que c'est mieux là-bas. Je dis simplement que la réaction parle aussi de celui qui regarde, hein, en l'occurrence. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça le choque à ce point-là? Parce qu'effectivement, la France a une histoire, qu'il en est le produit, etc. La deuxième chose, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que dans un certain nombre de quartiers, il peut y avoir, ça peut arriver, des réactions violentes. Il est certain que pour les journalistes, Florence fait partie des exceptions. Mais parce qu'elle travaille à y aller, vraiment. Mais il y a des quartiers où il est beaucoup plus difficile de rentrer qu'il n'a été. Mais je vais vous renvoyer Alain Finkielkraut, à un très vieux livre qui m'a beaucoup marqué, qui était celui de Flora Tristan, quand elle allait visiter les ouvriers, les paysans et toutes les classes qu'on n'appelait pas encore dangereuses, je crois, au début du 19e siècle. Eh bien, ces gens ne sont pas très sympathiques. Je veux dire, vous voyez, c'était pas... Là, on était entre bons Français, et c'était pas très simple non plus. Les gens avaient des réactions extrêmement violentes, machistes, ils rejetaient tout ce qui était étranger. Donc, vous voyez, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier.
Oui, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Un mot sur l'Amérique, quand même, parce que j'ai trouvé sur lemonde.fr un article tout à fait extraordinaire. À l'université de Washington State, aux États-Unis, on ne badine pas avec le vocabulaire. Les étudiants de plusieurs cours d'éthique et de théorie critique se sont vus notifier que l'emploi des expressions immigrants illégaux, personnes de couleur ou hommes blancs devenait passible de sanctions pouvant aller d'une mauvaise note jusqu'à l'annulation des résultats obtenus au cours du semestre. L'objectif de la mesure étant de lutter contre les discriminations, l'utilisation de termes racistes, sexiques, homophobes, transphobes, xénophobes en classe ou dans les travaux. Cette utilisation donc ne sera pas tolérée, a dit l'une des professeurs à l'origine de ces nouvelles règles. Alors, il y a eu, nous dit Le Monde, des étudiants qui ont contesté la mesure et cette position a été rapidement soutenue par des médias conservateurs. Et moyennant quoi, l'université a dit qu'elle n'irait pas jusque-là. Mais le terme de médias conservateurs pour signifier la protestation devant une telle mesure me fait rêver. Enfin, toujours est-il que l'Amérique n'est peut-être pas complètement exemplaire.
Ce que vous dites, c'est la vie ecclésiale des campus américains.
Oui.
Ce sont des univers relativement sous vide où la morale, ou plus exactement le moralisme, peut s'exprimer la générosité d'un électron dans le synchrotron de Genève. Là, je crois que c'est à Genève. Et vous voyez, donc la morale y agit sous vide.
Absolument.
Avec une espèce de liberté effrayante.
Liberté effrayante. Mais alors, donc, justement, revenons en France et nous allons parler de ce reportage tout à fait extraordinaire que vous avez fait. Et vous dites, Florence Omna, on parle du voile, évidemment, tout de suite, on appuie sur un bouton, les réactions se font vives, éruptives, convulsives, etc. Mais moi, je vous dis, évidemment, parce que aujourd'hui, on ne parle plus que de valeurs. Les valeurs européennes, l'universalité des droits de l'homme, les valeurs de la France. Dans une civilisation issue du christianisme, même si évidemment elle n'est plus chrétienne, c'est étrange parce que le christianisme est l'incarnation. Donc, il n'y a pas de valeur, il y a une intrication du charnel et du spirituel. Donc la France, j'en viens à ce que je vais dire, c'est aussi un art de vivre, des mœurs, des habitudes, un mode de présence sur la terre. Et ce mode de présence sur la terre implique effectivement un certain commerce des sexes, des cafés où il y a des femmes, bien sûr, et le voile, et surtout le voile tel que vous le décrivez là, eh bien, il s'inscrit totalement en faux avec ce qui est peut-être au cœur même, je dirais pas de notre identité, je veux pas employer ce mot blessant, mais de notre civilisation. Donc il est tout à fait légitime qu'il y ait ces réactions un peu éruptives.
Alors, on va parler de choses différentes.
D'accord.
C'est-à-dire que la première chose, c'est que, bien évidemment, si quelqu'un est obligé de porter un voile par son père, son mari, son frère ou qui que ce soit, c'est tout simplement intolérable, en France comme ailleurs. Et cette situation de contrainte et ce qu'elle signifie sur la situation des femmes, est épouvantable et c'est évidemment quelque chose contre lequel je m'insurge la première. Je pense qu'il y a, en revanche, plusieurs façons de porter le voile et que porter un voile en France et porter un voile en Arabie Saoudite ou porter un voile au Pakistan ou en Angleterre, ce ne sont pas les mêmes démarches, ce ne sont pas les mêmes pays et ce ne sont pas les mêmes personnes. Et ce qui peut être un symbole d'oppression, il n'y a aucun doute là-dessus sur porter un voile, peut être en France un symbole de révolte. Et alors, c'est vrai que quand je dis ça, en général, là, on est tous les trois, donc vous avez tous la gentillesse de ne pas hurler, même vous, Alain. Donc, mais vous êtes parfait. Je le pense très sincèrement. Je pense qu'il y a une façon de se révolter, qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais qui est de dire, voilà, moi, on m'empêche ici de pratiquer ma religion. C'est une façon... Oui, mais vous levez les mains au ciel, mais si vous voulez, quelqu'un aurait... Je vais vous faire une comparaison audacieuse. Bon, je m'y risque quand même. C'est une jeune fille d'une quinzaine d'années qui se met des piercings un peu partout, qui a une crête verte et qui dit « je vais à l'école comme ça ». Pour moi, elle exprime une révolte, elle exprime quelque chose. Et je trouve ça, c'est des choses qui ont lieu à l'adolescence. Et je trouve ça, moi-même, je n'aimerais pas trop voir les photos de ce que j'étais à 15 ans. Voilà. Et je pense que certaines jeunes femmes, à travers ce voile, à travers la façon de le porter, à travers la façon de se comporter, portent aussi une révolte contre les institutions, révolte qui est celle d'un âge et celle
de... Mais est-ce que toute révolte, est-ce qu'on a toujours raison de se révolter?
Ce n'est pas une question là de raison ou de pas de raison, c'est une question de situer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que
D'accord.
C'est laquelle des deux a raison de se révolter ou pas se révolter de parmi les jeunes filles de 15 ans qui se révoltent? Qui sommes-nous pour dire on a raison de se révolter, pas de se révolter? Je sais pas comment vous étiez à 15 ans, Alain, mais on est tous passés par là.
Et quel que soit, alors Florence Aubenas.
Je respecte pas une révolte pour la révolte, mais je pense que toutes sont audibles et porter le voile dans ces cas-là ne veut pas dire la même chose que de se soumettre à un pouvoir patriarcal. On est en Afghanistan, voilà.
Je vais vous parler d'une autre révolte, et là évidemment je m'avance sur un terrain extrêmement dangereux.
Mais
vous êtes à Carpentras, vous êtes ailleurs, mais par exemple à Carpentras, et vous voyez dans la rue principale défiler des femmes voilées, et elles sont majoritaires. Vous êtes à Bruxelles, par exemple. Et tout d'un coup, vous avez cette révolte en vous, et dont l'expression va vous faire bondir, beaucoup plus que moi-même je n'ai semblé bondir à ce que vous dites. Mais mince alors, on n'est plus chez nous. Je veux bien que les femmes soient voilées à Marrakech ou à Casablanca, ça ne me gêne pas. Mais là, non, c'est autre chose. Et quand le phénomène devient massif et quasi majoritaire, puisque cette femme surbookée dit, bah écoutez, revenez avec votre hijab, parce que évidemment toutes les candidates l'ont, et avec les nouveaux migrants, ça ne risque pas de changer. Donc, ce réflexe-là, vous en faites quoi? Est-ce que il faut nécessairement le criminaliser? Ou est-ce que c'est une révolte qui a sa place dans la table de situation des révoltes humaines?
Je pense que ni l'un ni l'autre ne doit être criminalisé, ni une personne qui traverse cette rue, comme vous le dites, et qui, au milieu des centres voilés, dit « je ne me sens plus chez moi ». Mais ces femmes voilées, elles sont chez elles. Ce sont des Françaises. On est tous chez nous. Donc, dans ce tous chez nous, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas quelqu'un, peu importe, il n'y a pas l'un qui serait plus chez soi que ne le serait l'autre. Donc, chez nous, cet endroit qu'on appelle tous chez nous, c'est le mélange des deux. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et comment ça va évoluer? Et personnellement, moi, le voile, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Moi, le voile, c'est pas mon truc. Je vous le dis très nettement.
Une jeune femme voilée,
si elle me demandait, mon avis, ce qu'elle ne fait pas, en disant, ouais, voilà, j'hésite à porter le voile, je dirais ne le porte pas. Voilà, y compris si c'est quelqu'un qui se révolte. Parce que pour moi, ça reste un symbole qui ne me plaît pas. Voilà. Maintenant, elle me dit, ouais, alors moi, c'est ça. Et alors en France, on n'a pas de boulot à cause de ça. Eh ben, et qu'elle dit, eh ben moi ça passe, cette phase-là, ça passe par le porter, eh ben qu'elle le porte. Et je ne m'en sens pas ni chassée de chez moi, et elle ne doit pas être chassée de chez elle non plus parce qu'elle le porte. Et c'est cette communauté qu'il nous faut retisser ensemble. Voilà.
J'ai joué le cuistre un peu. Ce que dit Florence, c'est un peu du Roland Barthes. Les signes sont ambigus. Et je pense que vous en serez d'accord. C'est-à-dire que, voilà, le voile, moi aussi, hein, je vous dire que. Je vois très bien ce que ça signifie prioritairement pour moi, un signe d'aliénation très clair. Mais je suis bien obligé, et à titre d'homme et à titre de journaliste, d'essayer de comprendre pourquoi des gamines de 15 ans ou des femmes de 20 ans dans ce pays, en France, en 2015, décident de le porter. Et là, on rentre effectivement dans une ambiguïté tendue, violente, mais tout de même une ambiguïté. Alors, sur la révolte, moi non plus la révolte en tant que telle, mais enfin, la révolte, c'est quand même une manifestation d'énergie, peut-être mal employée, mais je vous rappellerai la phrase d'Alain, « Quiconque n'est pas révolté à 20 ans n'a plus assez d'énergie pour être capitaine de pompiers à 30 ». Bon, c'était dû à Alain, qui n'était pas non plus un grand révolutionnaire, mais ce qu'il voulait dire, on comprend bien, c'est-à-dire, on ne peut pas forcément justifier les signes de la révolte à 15 ou 20 ans, parce que souvent d'ailleurs ils sont pas très intelligents et ils portent la marque d'une certaine aliénation, et en même temps notre travail c'est de le comprendre. Et pour finir, quand je dis notre, c'est ceux qui sont censés nous représenter, c'est-à-dire quand même les gens qu'on élit, les hommes politiques. Et je pense, par rapport à ce que disait Florence à la fin, que cette compréhension du vivre ensemble n'a pas été pensée, ni organisée, ni mise en scène, parce que la mise en scène aussi est importante, la mise en spectacle, en quelque sorte, de la communauté, aux yeux de tous, par ceux qui étaient censés le faire, et ce, depuis déjà quelques décennies.
Mais quand même, je pense à Renan, la nation, on peut parler de vivre ensemble, c'est lui qui en a donné la première définition, la plus profonde, la plus juste, 1882, la nation est un plébiscite de tous les jours. On manifeste le désir de vivre ensemble, de continuer, mais aussi c'est l'attachement à un certain héritage qu'il faut faire valoir individu. Donc une définition politique, nation élective, définition culturelle aussi. Donc nous sommes, d'où que nous venions, où que nous soyons nés, nous sommes les héritiers de quelque chose.
J'en suis d'accord.
Cet héritage, nous n'avons aucune raison de le brader. Et quand les gens arrivent, et bien sur notre sol, il est quand même tout à fait légitime de leur demander de se conformer à des mœurs. Et par exemple, le rapport entre les hommes et les femmes, qui n'est pas simplement l'égalité des hommes et des femmes, ça va encore bien au-delà, eh bien, sont pour nous essentiels et non négociables. Parce que sinon, on décide qu'au nom des droits de l'homme, totalement décontextualisé, tout devient absolument négociable et on ne demande plus rien à personne. Et effectivement, cette maman sur bouquet, eh bien, elle jette l'éponge, elle ne demande plus rien. Et Florence Aubenas, vous avez l'air de l'approuver malgré tout dans votre article au demeurant, je le répète.
Mais qui est
absolument
nous
passionnant.
Vous disiez nous, qui est nous, c'est ça la question. C'est-à-dire parce que si c'est nous vous Alain Finkielkraut, moi Philippe Plançon et Florence Aubenas, on voit bien à peu près qui est nous. Mais nous, en France, c'est plein d'autres gens qui ont effectivement, par leurs parents, leurs grands-parents et bientôt leurs arrière-grands-parents, des cultures différentes, qui s'agglomèrent à un fond français qui n'est pas un fond immuable, c'est-à-dire qui a toujours bougé. Enfin, c'est des évidences, des banalités que je dis là. Et donc, il faut bien... vous dites l'attachement, mais pour arriver à cet attachement, l'attachement, ça se travaille, c'est-à-dire, et ça se travaille à l'école, ça se travaille au niveau de la ville, ça se travaille au niveau politique, et pas par des injonctions. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, vous voyez, et or, on a été dans un système, enfin, moi, il me semble, de plus en plus, moi, j'ai échappé à ça. J'étais de la génération de l'ancien contrat social, on va dire. Et les injonctions sont arrivées face à des enfants et des petits-enfants qui n'étaient plus en mesure de les recevoir telles qu'elles étaient dites.
Florence Aubenas.
En plus, je pense que vous décrivez des gens qui arrivent et qui importent une culture. Mais les gens dont on parle, les jeunes femmes dont on parle, ce ne sont pas des gens qui arrivent, ce sont des gens qui sont nés ici depuis trois générations. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans notre pays d'une jeune femme qui a vécu ici, qui a été à l'école, la même école que vous et moi, qui vit dans cette même société, qui regarde la même télévision, on partage cette même culture. Cette culture, c'est la sienne comme la mienne. Donc, on ne peut pas jouer éternellement à ce « eux » et « nous » comme s'ils débarquaient, et heureusement. Et donc, ce partage, cette chose-là, je pense qu'il faut la prendre à bras-le-corps et non pas taper sur une différence en disant « mon Dieu, tout le monde au pas ».
Là, j'ai un problème que je voudrais vous poser pour finir. Parce que les journalistes, eh bien... Ils sont là pour nous aider à voir et à penser le présent. C'est ça.
C'est vrai.
Le présent, c'est le temps du verbe des journalistes. Or, disait Auguste Comte, la société est composée de plus de morts que de vivants. Et Chesterton disait, la tradition, c'est la démocratie des morts. Et ces morts, évidemment, ils sont là aussi. Et ces morts, ils ont fait ce pays tel qu'il est, cette forme de présence sur Terre, cet art de vivre, et nous n'allons pas le brader. Mais alors, évidemment, ces morts ne se voient pas. Mais simplement, peut-être, effectivement, nous engage-t-il à persévérer dans un certain mode d'être. Et vous vous dites, ben non, puisque tout ça va s'arranger entre les vivants dans le nouveau cadre qu'ils constituent et les morts n'ont plus aucun privilège.
Je dis pas ça. Alors d'ailleurs, à ce propos, ça me rappelle une phrase de Chateaubriand, « Nul son ne sort du cœur des morts ». Non, les morts parlent à leur façon, mais on dit pas que... Il faut pas opposer, encore une fois, de même que nous à eux, on n'oppose pas les vivants aux morts. C'est-à-dire, la question, c'est comment faire en sorte que tous les vivants qui sont là dans ce pays, qui, encore une fois, à mon avis, a continué un peu trop tard à se représenter d'une façon qui ne correspondait plus à ce qu'il était devenu, comment faire en sorte que les vivants tels qu'ils sont aujourd'hui dans ce pays, et là, on est journaliste, Florence fait son travail quand elle fait ce qu'elle fait dans le monde, puissent justement à la fois se sentir français ce qu'ils sont, et d'autre part, éventuellement, parce que c'est important pour vous comme pour moi, Alain Finkielkraut, avoir accès à ces morts dont on parle. Moi, je vois vraiment pas pourquoi quelqu'un qui est né à Grigny, de parents africains ou etc., ne puisse pas lire Ernest Renan. En fait, je ne vois aucune raison pour laquelle, à terme, il ne puisse ne pas le faire. Tout en regardant ce qu'il veut,
lire,
etc.
Et peut-être aussi...
Lire et le comprendre, bien sûr. Et je pense qu'il peut le comprendre. Alors, je sais que
sûr.
Je suis très utopique, etc.
Ah, bien
etc.
sûr, je suis d'accord avec vous.
Et on va me traiter de démagogique. Je pense pourtant que c'est possible. Mais il faut s'en donner les moyens et avoir l'intelligence de savoir à qui l'on s'adresse.
Florence Aubenas, bon, pour finir.
Oui, alors, c'est vrai que quelque chose est très frappant en France, c'est que la deuxième langue en France, c'est l'arabe. Donc, il y a des millions de personnes qui parlent arabe en France. Ils parlent arabe comme aux États-Unis, des millions de personnes parlent espagnol. Et on ne remet pas en cause pour autant le fait que les États-Unis soient bien les États-Unis, que la culture anglo-saxonne y reste majoritaire. Et en France, il y a une part d'arabité qui est due à notre propre histoire, s'il faut faire parler les morts, c'est-à-dire à la manière dont la France aussi est allée en Algérie, a voulu avoir un empire colonial, et qui est dans l'histoire et qu'on doit nous aussi regarder. Et je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant en France. Hein, il y avait eu tout un mouvement pour faire reconnaître l'arabe comme une des langues minoritaires en France. Bon, ce mouvement n'a finalement pas abouti, mais je pense que c'est vers là qu'il faudra aller. C'est-à-dire, c'est reconnaître, alors attention, bouchez-vous les oreilles, reconnaître, la France doit reconnaître sa part d'arabité, comme elle reconnaît sa part de toutes les cultures qui l'ont façonnée, des cultures méditerranéennes qui sont venues d'Espagne et d'Italie à un certain moment, d'Europe de l'Est à d'autres moments, et ça fait partie de notre pays. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait se battre. Il faudrait se battre sur le fait que dans les lycées et les collèges, il y a 16 000 jeunes gens qui étudient le chinois et 6 000 qui étudient l'arabe, et il y a quelque chose là-dedans qui ne va pas. Et on ferait mieux de se battre pour dire, voilà, apprenons mieux l'arabe, comme on apprend l'anglais, comme on apprend l'espagnol dans les lycées, et non pas se battre pour des prestations hôtelières qui seraient manger halal, s'habiller comme ci, etc. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de dire, voilà, il y a des gens qui parlent arabe, c'est une force pour nous que d'avoir différentes langues, comme il y a le breton, comme il y a l'occitan. Et moi, je trouve ça formidable, et c'est là-dessus qu'il faudrait s'appuyer. Et non pas en faire une fragilité, c'est une force.
La prochaine fois, j'organiserai un débat, Florence Aubenas, entre vous et Michel Houellebecq.
Avec grand plaisir.
Sur ce que vous appelez l'ouverture.
Mais c'est pas une ouverture, c'est pas un choix. C'est pas optionnel.
Voilà.
Les gens sont là, ils parlent arabe, et à la place de dire, écoutez, ça n'existe pas, je regarde ailleurs et on va plutôt se disputer, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Mais quel nom donner à votre préconisation? Mais ce sera donc pour une autre émission. En tout cas, je vous remercie, Philippe Lançon, ainsi que Florence Aubenas.
Vous avez été héroïque, Alain, je tiens à le signaler à tous vos auditeurs.
Je rappelle le titre de votre livre, Florence Aubenas, En France. Il est publié aux éditions de l'Olivier. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Les mots de l'école et les moyens d'y remédier ». Mes invités seront Marie Durubella, François Dubet et François-Xavier Bellamy. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Stéphane Touvenin. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, Singapour, les clés du miracle, avec François-Charles Mougel.